Le mardi, dans la deuxième partie de l'EM, vous le savez maintenant, c'est le plateau des marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous, des idées de sortie dans le Finistère aussi. Aujourd'hui au micro, il y a Tristan Legros qui nous parle du journalisme d'investigation, Davy Andrasik qui nous parle de la ludothèque de Polissonnance et mon grain de sel vous proposera quelques rendez-vous à suivre très bientôt d'agenda. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Tristan, on commence avec toi et un événement qui t'intéresse grandement.
Oui. Une table ronde qui aura lieu le 29 mars prochain et qui sera animée par Arnaud Clugéry, donc c'est le directeur d'Eau et Rivière en Bretagne, et ça sera autour, tu l'as dit, du journalisme d'investigation et des lobbies. Donc il interrogera deux journalistes d'investigation, Christine Falchon et Stéphane Aurel, qui partageront leurs expériences et les dessous de leurs enquêtes sur les lobbies. Et ça, c'est organisé par l'Asso pour la protection de la côte des légendes, une asso qui œuvre pour la protection de la nature, des espaces naturels dans le pays d'Iroise. On peut lire sur leur site web, je cite, « Nous voulons que nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants, que les usagers puissent se baigner sur des plages propres et saines. »
Mais là, le sujet n'est pas spécialement orienté vers l'écologie. Enfin, c'est plus vaste que ça.
Plus vaste,
en fait, hein. Ouais.
Il y aura Stéphane Aurel, le journaliste au Monde, qui a enquêté sur le scandale des PFAS. Vous savez, ces petits composés chimiques dits polluants éternels que l'on accumule dans nos organismes avec nos poêles anti-adhésives,
voilà.
Et que l'on parsème aussi dans la nature et qui sont apparemment très très persistants.
Éternels, on dit. Des polluants éternels, on les appelle.
Ouais. C'est ça. Et son travail d'enquête porte de manière plus générale sur les conflits d'intérêts et les lobbies liés à l'industrie des pesticides.
Donc Stéphane Aurel, il est journaliste au Monde.
Elle est journaliste au Monde,
elle, ouais. C'est une femme. Ok.
Et il y a aussi Christine Falchon, donc journaliste à Splende, le média d'investigation indépendant breton. Et lui, il enquête sur les lobbies économiques et culturels bretons. Et on lui doit des enquêtes sur le lobby porcin aussi, sur la Coper, le groupe Avelvor. Et donc ces lobbies économiques et culturels bretons, ils s'expriment entre autres à travers la figure d'Alain Glon, sur lequel Christine Falchon a écrit un article. Il est aussi bien à la tête de Bretz, producteur de chips, et je vous invite à lire sur Splane une enquête récente sur le sujet.
Sur les chips?
C'est ça, Alto Bretz en Centre-Bretagne, le vrai coup des chips made in France, signé Nolwenn Weiler. Et il a aussi enquêté, et Alain Glon en fait a aussi une certaine influence sur le monde culturel et politique de la région, puisqu'il est investi dans la Vallée des Saints et est président de l'Institut Locarn, un think tank, donc un club de réflexion en français, et un lobby de patrons bretons, élus syndicats asso opposition ultralibérale.
L'Institut Locarn qui a changé de nom, qui s'appelle le Kéréden, à présent, qui est toujours au même endroit, au centre Bretagne.
Et Christine Falchon a aussi enquêté sur les pollutions, donc émissions d'ammoniac, nitrate et eaux polluées liées à l'industrie porcine, comme je le disais, avec un cas comme celui de Plouvorne, par exemple. Plouvorne, c'est un petit village finistérois où il y a 28 fois plus de cochons que d'habitants, soit 5 cochons par habitant, soit plus de 80 000 cochons pour un peu moins de 3 000 habitants, pour reprendre les statistiques de l'enquête.
Bah oui, de toute façon, la Bretagne est la région qui produit le plus de cochons, hein. Ça... D'accord, et donc ils vont parler de leur travail, c'est ça, tous les deux?
C'est ça, ils vont témoigner de leurs expériences, de leurs difficultés en fait, qu'ils peuvent rencontrer en tant que journalistes d'investigation enquêtant sur des lobbies parfois très puissants. Et tout ça, ça sera le 29 mars à Melon, commune de Prosperden, de 18h à 20h à la salle Henri Léon.
De Prosperder plutôt, non?
Prosperder, pardon.
Prosperder, sur le, au nord, la côte nord, ouais. À quelle heure?
De 18 à 20h. Et l'entrée, c'est gratuit.
Ah, c'est bon, c'est bien de le... De donc le 29 mars, bah c'est samedi prochain en fait, c'est ça, hein,
oui.
Samedi soir. Eh bien, merci beaucoup Tristan. Alors, Davy,
ouais.
En plus d'être salarié de la radio, ce qui est déjà t'occupe beaucoup, il se trouve que tu es bénévole de la ludothèque de Polissonnance à Châtelain.
Bénévole référent même, s'il te plaît, je suis gradé. Ah bah attends, mais ça rigole pas.
Eh oui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette ludothèque qui est... En quoi elle est différente des autres ludothèques?
Alors déjà, c'est... Une des plus vieilles ludothèques du Finistère. Je ne sais pas si tu savais ça.
Moi, je croyais que c'était la plus vieille, en fait. Mais c'est une des.
Je pense que c'est une des, ouais. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment la plus vieille. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est vieille.
Oui, moi, je l'ai connue vraiment il y a longtemps. Il y a 20 ans, on va dire, à peu près. Elle était déjà là. Non, bon, c'était tout petit, hein. Voilà.
Alors, tu sais, ils ont cumulé plein de jeux, hein. Ils en ont un peu plus de 1000 maintenant, ce qui est quand même assez énorme. Et je ne sais pas où elle était à l'époque.
Là, toujours à Polissonnance, mais c'était une petite à côté de Polissonnance, en fait.
Voilà, c'est ça.
Une petite salle.
Là, du coup, elle est à côté de la bibliothèque. Et ils ont un gros problème, c'est qu'il y a des fuites sur le toit.
Ah.
Mais pas qu'un peu. On peut avoir jusqu'à 2 ou 3 cm d'eau par terre quand il pleut beaucoup. Et donc là, ils vont faire une grosse réfection de la toiture. Donc, à l'origine, Polissonnance devait s'arrêter, enfin fermer le bâtiment fin avril. Et les travaux, ils ont été avancés au 15. Et puis maintenant, c'est au 1er avril. C'est pas une blague.
Donc c'est urgent, quoi. C'est des travaux urgents.
Ouais, c'est travaux. Bah oui, c'est vraiment. Ouais. C'est vraiment très urgent parce que du coup, tout le matériel qui est en dessous prend et c'est vraiment pas bon pour eux. Et ils vont en profiter donc pour fermer la ludothèque, fermer Polysonance et pour faire une ludothèque itinérante.
Voilà.
Donc ils vont se poster à des endroits un petit peu stratégiques. On pourra pas louer les jeux pour ceux qui sont adhérents à Polysonance et à la ludothèque. On pourra pas louer des jeux, mais on pourra pas emprunter pendant 2-3 mois. Mais ça soulève un autre problème. Et donc du coup, il y a un petit camion avec des jeux dedans, et ils vont se mettre à plusieurs endroits. Alors pour l'instant, les sites sont pas encore tout à fait définis. Ça a été fait vraiment, tu vois, au dernier moment, et on va pouvoir quand même accéder aux jeux, puis pouvoir jouer à des endroits, un petit peu partout.
Mais ça fera quel jour, quelle heure,
J'ai entendu parler d'un lundi, du samedi, ça sera un petit peu éclaté partout sur le territoire, c'est pas encore tout à fait
défini. Ça serait pas que à Châtelain ?
Non, c'est
Châtelain-Porzay, tout ça ?
Ouais, c'est ça. Bon. Sur un rayon de 10-15 km, je pense, tu vois, autour de Châtelain.
Bon, c'est assez régulier.
C'est régulier, ça va durer au moins 3 mois.
Ça, c'est le temps des travaux prévus.
C'est commencé les travaux, c'est quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine. C'est comme quand tu rentres à l'hôpital, c'est pareil. Et bien là, c'est ça. C'est au moins, il se donne une durée environ de 3 mois. Il va y avoir des changements à l'intérieur même de la ludothèque. Il va y avoir des murs en dur, des tas de choses qui vont venir. Et du coup, la ludothèque, elle a un autre problème, un très gros problème, c'est que justement, c'est des vieux jeux. Et il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir compter les jeux. Parce que ça, c'est le principe d'une ludothèque. Normalement, quand on réceptionne des jeux, on doit compter tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Ah, tous les petits pions, toutes les cartes.
Les petits pions, les cartes, tout ça.
Ça prend énormément de temps.
Et ça prend un temps de fou et on doit remettre tout ça en rayon. Et malheureusement, en Polysonance, ils n'ont pas le personnel pour ça. C'est impossible. J'ai essayé, moi, de le faire. J'y arrive pas. Et on essaye même à 2, à 3, on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de jeux qui rentrent. Il y a beaucoup trop de flux. Et donc, à force, il y a des jeux qui sont cassés, il y a des jeux qui sont abîmés, il y a des pièces manquantes. Et donc, il y a énormément de jeux. On a fait des tests, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux. Donc, on va profiter de ces 3 mois-là pour faire un inventaire complet, total, massif de tous les jeux. Et on va aussi profiter pour revoir tout le système de classification de ces jeux. Parce que dans les ludothèques...
Officiel,
il est vrai, il y a un système qui s'appelle le système ESAR. Alors là, attention, je ne sais pas m'énerver.
Ah mais non, je t'énerve pas, tu vas bien.
Mais voilà, c'est un système qui ne correspond pas aux jeux de société parce que c'est fait pour les jouets. Et les jeux de société, ce ne sont pas des jouets,
mais
c'est
non, pas
fait
du tout. Pour. Il a été conçu pour les jouets.
Oui, c'est ça. À la base,
parce qu'au départ, les ludothèques, c'était plutôt pour prêter des jouets.
Oui.
Ouais.
Et c'est à la base, c'était pour ça. C'était pour les professionnels de la petite enfance et tout ça. Ils savaient quoi utiliser comme jouet parce qu'ils étaient dans telle ou telle catégorie. Malheureusement, le jeu de société ne correspond pas à ça. Pas tous. Pour les tout petits, peut-être. Mais à un moment donné, les jeux de gestion et développement, je ne vois pas comment tu peux les mettre dedans. Bon.
Et ils n'ont pas créé un nouveau classement pour s'adapter.
Non, il n'y a pas de nouveau classement officiel pour ça. En revanche, il y a un ludothécaire très sympa qui s'appelle Yann C, qui, lui, a réfléchi pendant 20 ans à un système de classification des jeux de société qui s'appelle Ludopro, qui est mis à la disposition de tout le monde. C'est un truc un peu open source. On peut apporter notre grain de sel et tout ça. Et il a fait un système.
Ah oui, donc il y en a un quand même.
Il existe et c'est ce système qui va rentrer à la ludothèque de Polysonance avec des codes couleurs pour pouvoir en fait identifier très facilement les jeux qui nous correspondent, dont on a besoin. Donc c'est fait en fonction en fait des compétences de chacun. Des jeux qui sont faits pour l'initiation, donc les 0 à 5 ans, ça va être vraiment pour la famille, c'est-à-dire les jeux pour partir de 6 jusqu'à 8 ans. Ceux qui commencent à avoir un petit peu de vécu dans le monde du jeu de société, c'est-à-dire 8-12 ans. Et puis après, ceux qui ont vraiment un peu d'expérience dessus, qui voudraient apporter des compléments à partir de 12 ans jusqu'à 15 ans.
Voilà. Mais ça, c'est une classification par âge. Mais après, il y a la classification par type de jeu.
Alors après, voilà, il y aura des sous-catégories avec des petits logos qui seront facilement identifiables. Et on a fait des tests. On a fait des tests récemment à la Ludo pour ranger les jeux par catégorie, machin. Et ça a marché très vite. C'est-à-dire qu'au moment où je rangeais, il y a des gens qui sont arrivés derrière moi et me disent « Mais vous avez racheté plein de jeux ?» Je dis « Non, on les a juste rangés. »
Ah ouais, classés
donc,
différemment.
Juste classés différemment, remis un petit peu comme ça et ça fonctionne. Donc, on a bon espoir. Ça va durer... je pense que cette catégorisation de jeux va durer je ne sais pas combien de temps. On va profiter en tout cas de ces 3 mois-là. Normalement, la ludothèque, elle est fermée de juin à septembre. Et donc on va encore profiter de ce moment-là pour pouvoir ranger les jeux, les classifier, les ranger, enfin tout ça, faire du tri. On va ouvrir une collection Parce que du coup, il y a des très, très, très vieux jeux.
Ah,
et
oui.
Plutôt que de les mettre, tu vois, avec des jeux tout beaux, tout propres et tout, qui font un peu tâche, entre guillemets, même si le jeu lui fonctionne et qu'il est très bon, on va ouvrir des sessions, par exemple, une section collection. Donc, il y a des gens qui voudront avoir que sur des jeux qui ont plus de 15 ans ou des jeux classiques, les échecs,
vintage.
Tout ça, les jeux vintage, et ben on les mettra dans cette catégorie-là pour leur donner un peu plus de valeur.
Il n'y aura pas de foire aux jeux qui seront vendus, là, comme les bibliothèques font quand elles désherbent les livres.
Alors, c'est pas impossible. Mmh. C'est pas impossible qu'on fasse ce genre de choses. Normalement, les jeux qui sont abîmés, ils sont mis de côté et ils s'en servent en fait pour restaurer des jeux où il y aurait des pièces manquantes.
Mmh.
Il est tout à fait possible aussi qu'il y ait des réunions avec les autres médiathèques locales, celles de Pontbuy par exemple ou de Plébin,
pour des ludothèques
pour apporter des jeux manquants ou avec des pièces manquantes, essayer de voir s'ils peuvent pas essayer de s'organiser pour remettre en état certains jeux. La médiathèque de Plébin, elle est toute neuve, donc elle a besoin de nouveaux jeux, elle a besoin d'un peu de matériel. Je pense pas que notre amie Rachel soit contre qu'on lui cède certains jeux, même si ils sont un petit peu vétustes. L'important, c'est que les gens jouent, c'est pas forcément la qualité de la boîte, mm-hmm. j'ai envie de te dire.
La MU de la ludothèque de Polissonnance à Châtelain, ça commence donc le 1er avril.
Oui, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de boulot, ça va durer 3 mois. Donc on est 3 ou 4 à faire ça. Et je suis le seul mec en plus. Donc j'aimerais bien, moi, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se greffer, nous filer un coup de main.
D'autres bénévoles.
Super. Ouais.
Passionnés de jeux. D'accord.
Et puis de rebricolage aussi.
D'accord. Ah oui. Merci,
voilà,
Davy.
De rien.
Pour terminer, quelques rendez-vous d'agenda, je vous en parlais. Alors justement, le musée des Beaux-Arts de Quimper, bah lui aussi a fermé ses portes pour travaux. Et pareil, ils font, d'ailleurs, c'est jusqu'en 2026, donc là c'est vraiment très très long. Et ils font des animations hors les murs, un peu comme la ludothèque de Polissonnance. Et par exemple, ils font des expositions. Alors ce ne sont pas les vraies œuvres de la collection qui sont présentées, ce sont des reproductions. Par exemple, ils en installent le musée chez les retraités. Donc ils vont installer dans les EHPAD des expos temporaires hein, qui durent un mois et demi. Là, il y en a un en ce moment à l'EHPAD de la retraite. Et là, c'est 20 reproductions qui ont été choisies par les résidents de la maison de retraite, des paysages qui se colorent de vert, tout ce qui invite au printemps, au dehors. Il y a une autre expo sur le musée à la maison de retraite, L'amour des fleurs. Donc cette fois, c'est à l'EHPAD Thérèse Rondeau à Quimper. Alors c'est la dernière semaine aussi pour voir le musée à l'université. Donc ça, c'est au pôle universitaire Pierre-Jacques Azélias, des œuvres qui ont été sélectionnées par les maîtres de conférences en histoire de l'art, donc des gens sans doute qui s'y connaissent. Et c'est aussi la dernière semaine pour voir le musée à la MPT, alors la MPT d'Ergarmel en l'occurrence. C'est 28 reproductions d'œuvres issues des collections dont les artistes sont des femmes. Donc ça, c'est le musée des Beaux-Arts de Quimper. Un peu plus près de nous, dans le cadre du mois de la langue bretonne, c'est le mois de la langue bretonne, il y a la Skoliwan Arfaou et l'association Brézonec et Brorouzic qui accueillent un ancien professeur des écoles et maître de conférences en sciences de l'éducation à l'UBO de Brest. Il s'appelle Gwenolé Larvol et il va présenter son travail de thèse qui a pour titre « Sinon, ça restera la langue de l'école ». C'est en fait sur la place de la langue bretonne dans la société, sur la façon dont on s'est approprié la langue bretonne, les enfants qui sont scolarisés dans ces filières D1 et bilingues. Donc c'est une conférence qui a lieu à la salle Danielou du Fou jeudi prochain, c'est gratuit et c'est sans réservation. À l'occasion du printemps des poètes, je vous signale qu'à Châtelain, la classe de violoncelle de l'école de musique et le théâtre de Saturne présentent une poésie volcanique. Eh oui, éruption de composition, chanson, lecture, cratère de violoncelle. C'est samedi prochain à 15h, c'est au Germoire à Châtelain et l'entrée est gratuite. Donc vous voyez, si on veut suivre des animations gratuites, il y en a. Hein.
Ils vont mettre le feu.
Oui, bah oui, évidemment. Plébin, voilà, on n'est pas très loin. Samedi aussi, c'est la journée à la trace. Alors là, c'est dans le cadre de la saison culturelle de la commune. Ça se passe à l'Arvest, je crois. Oui, c'est ça, à l'Arvest de Plébin, samedi. Et c'est une journée qui est dédiée à tout ce qui est espèces sauvages. Donc, il y aura un atelier sur les traces des animaux à 14h30. C'est animé par le parc d'Armorique. Une balade qui partira de l'Arvest et qui est accompagnée par un animateur de Ménesmeur. On suivra les traces des animaux, hein, voilà, tout simplement. À 17h30, un spectacle à la trace. C'est Baptiste Morisot qui nous invite à repenser nos relations avec le vivant. Il associe des récits, ces récits de pisteurs, justement, et ses réflexions philosophiques. Donc ça, c'est 17h30, c'est toujours à l'Arvest. C'est à partir de 9 ans, mais c'est payant, donc il y a une billetterie en ligne. Et puis à 20h, on pourra voir le film « Notre part sauvage, la controverse du loup » de Jean-Pierre Valentin, avec une conférence ensuite animée par l'association Férus sur le retour du loup en Bretagne, donc à l'Arvest également. Ça s'appelle la journée à la trace, samedi, à Plébin. Et puis je vais vous rappeler que les 5 et 6 avril, ce sont les journées européennes des métiers d'art, et le parc naturel d'Armorique organise donc ces journées sur notre territoire. Delphine Kermel, qui est chargée des actions culturelles du parc, nous explique ce qui est proposé cette année aux journées des métiers d'art.
Tous les printemps, on propose une opération qui vise à faire connaître et à rencontrer les artisans d'art, faire mieux connaître ces métiers. Et c'est un événement qu'on coordonne sur le territoire du parc depuis 2017. On varie d'une année, une année sur deux, un événement au domaine de Ménesmeur à Anvec, sous la forme d'un salon des métiers d'art, où l'on regroupe un bon nombre d'artisans d'art du territoire. Et puis l'année suivante, et c'est le cas de l'édition 2025, on propose à l'échelle du territoire du parc d'aller à la rencontre des artisans d'art dans leurs ateliers ou encore dans des lieux partagés où ils nous présentent tout leur savoir-faire.
Oui, parce que quand c'est à Ménesmeur, j'imagine que c'est plus difficile de faire venir l'atelier à Ménesmeur.
Voilà, c'est ça. Et on propose, quand c'est à Ménesmeur, d'avoir un bel aperçu de l'ensemble de la diversité des métiers et des artisans en un seul lieu. Et là, l'idée, c'est plus d'aller dans des lieux un peu plus confidentiels, des ateliers, pour aller voir les artisans d'art dans leur contexte de travail et de création. La manifestation nationale, elle a lieu sur une semaine, mais en Armorique, on concentre en effet les propositions sur le week-end des 5 et 6 avril sur de nombreuses communes du territoire, puisque les artisans nous proposent 7 lieux de rendez-vous, de Morgat le plus à l'ouest à Plougonvin le plus à l'est, avec, encore une fois, plein de métiers différents et plein de propositions différentes.
Alors, 7 lieux, mais peut-être plus d'artisans d'art que ça.
Oui, tout à fait. Il y a près d'une vingtaine d'artisans d'art, certains dans leur lieu de travail, seuls, et d'autres ont souhaité se regrouper. C'est aussi un petit clin d'œil à la thématique de cette année, puisque les GEMA cette année sont sous le signe du trait d'union.
Trait d'union, c'est pas vous qui choisissez, de toute façon
c'est le thème national. Voilà, mais qui a parlé à beaucoup d'artisans en se disant c'est le trait d'union avec le territoire, parce qu'on travaille et on vit sur ce territoire-là toute l'année, mais ça peut aussi être le trait d'union entre nous. Et pour cette édition, on a envie aussi, pour certains d'entre nous, de nous regrouper et de présenter en commun notre territoire et surtout notre passion.
Et comment est-ce que vous choisissez chaque année, pour chaque édition, les artisans d'art
Alors en fait, on s'appuie sur un réseau d'artisans d'art avec lesquels on travaille toute l'année. Il y a 7 événements ponctuels, mais c'est aussi des personnes qui vivent et qui travaillent sur le territoire. Ce sont les artisans d'art regroupés dans le réseau Marc Valeur Parc. C'est une marque nationale de la Fédération des Parcs avec un cahier des charges exigeant et qui nous permet d'identifier sur le territoire des acteurs qui ont à cœur de faire connaître et partager leurs connaissances et leur amour du territoire. Là, après, on n'est pas fermé et il y a aussi beaucoup d'invitations d'artisans d'art qui ne sont pas dans ce réseau-là.
Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a comme métier cette année, par exemple ?
Alors, cette année, vous pourrez rencontrer, échanger avec des céramistes. Vous allez pouvoir découvrir les métiers de la gravure, du travail du bois, de la tapisserie d'ameublement, la joaillerie, la mosaïque, la marqueterie. Donc, tout un panel de savoir-faire, de métiers.
Donc Delphine Kermel vous a cité quelques communes. Je vais vous détailler celle de la presqu'île de Crozon. Les journées des métiers d'art s'implantent sur 2 sites. À Telgruc, il y a 3 artisanes qui se réunissent à l'initiative d'une association qui s'appelle Cœur d'artisanes. La présidente Hélène Jussot est mosaïste pour l'atelier Label Hélène à Telgruc. Elle sera là. Il y aura aussi Émilie Thibaudet qui, elle, est couturière de la maison de Milly. Et Léna Jaouen, qui, elle, crée des bijoux en argent massif. Son atelier s'appelle Les Étoiles de Géna. Et donc, elles sont toutes les 3 au rez-de-chaussée du presbytère de Telgruc. Et elles y sont plus longtemps que le week-end, puisqu'elles y sont de lundi prochain jusqu'au dimanche pour faire découvrir des pratiques artisanales. Elles vont aussi rendre visite aux classes de l'école de Telgruc. Et elles vont proposer des animations. Donc, c'est ouvert la semaine prochaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 10h à 17h. Samedi et dimanche, c'est de 11h à 18h. C'est juste fermé le mercredi. jeudi. Et l'adresse, c'est 19 rue de l'Église à Telgruc. Et à Morgat, toute la semaine également, il y a Catherine Cordonnier qui accueille 6 autres artistes, alors essentiellement des céramistes comme elle, Élodie Delaunay, Florence Vély, Rosalie Hauteville, Marie Gravier, Isabelle Deschamps. Et puis, il y a le plasticien Gédéka qui sera là aussi. Et ça commence aussi lundi prochain. En semaine, c'est de 14 à 18 heures. Et les samedis et dimanches 5 et 6 avril, ce sera de 11 heures à 18 heures. L'adresse, c'est rue Surcouf à Morgat. Voilà, merci à toutes et tous de votre écoute. Les Marottes du mardi en deuxième partie de l'EM, c'est fini. Merci Davy.
Mais de rien.
Il y aura une autre rasade de Marottes la semaine prochaine. Et puis bah, dans le LEM de mercredi, c'est Pierre-Yves Boussard en direct et qui vous parlera. Bah, vous verrez bien, hein, vous n'aurez qu'à écouter.
Voilà.